I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ben c'est parti pour ce magnifique sujet sur qu'est-ce que fout Apple en termes d'IA générative. Chez les GAFAM, les plus grosses entreprises tech américaines, toutes ont pris le virage de l'IA générative. Google et sa filiale DeepMind sont des précurseurs depuis des années. Pareil pour Facebook avec son laboratoire FAIR, qui a été créé d'ailleurs par le français Yann Lequin. Microsoft a investi des milliards dans OpenAI, donc le leader du marché. Et Amazon suit un peu derrière. Ils ont quand même sorti leur modèle Titan. Et ils ont leur plateforme Bedrock qui rassemble et qui met à disposition tous les modèles de fondation disponibles sur le marché. Mais alors, que fait Apple dans tout ça? Est-ce qu'ils sont à la traîne? Il y a même des rumeurs qui disent que Apple pourrait travailler avec Google pour intégrer des fonctionnalités d'IA dans les prochains iPhones. Sauf que, depuis quelques mois, on observe du changement. Malgré leur importante culture du secret, on a quelques infos qu'on va vous livrer ce soir. Dans l'ombre, Apple a fait des avancées très intéressantes. Ils ont sorti 4 modèles différents qui pourraient être à l'origine de fonctionnalités très très cool dans les prochains iOS, peut-être même macOS, les prochains iPhone
ou casque. Mac.
Ou casque Apple Vision, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait un petit nouveau dans la bande. Alors historiquement, Apple n'est vraiment pas un précurseur de l'IA. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus Google et Facebook qui travaillent dessus depuis presque plus de 10 ans maintenant, je crois. Ou encore, il y a évidemment des acteurs dont c'est le principal métier, je pense à OpenAI, je pense à Mistral ou Anthropic. Avec le boom de l'IA générative depuis 2 ans, les analystes et aussi un peu les investisseurs d'Apple se posent la question du retard que pourrait avoir Apple, que pourrait avoir pris Apple. Et honnêtement, un peu à juste titre, tout le monde se dit qu'est-ce que fait Apple dans cette histoire? Ils sont clairement pas en avance, sauf s'ils arrivent dans les prochains mois à redresser la barre. Parce que en effet, c'est un facteur économique important. On aura beau avoir le plus beau des iPhones, le plus classe et l'UX la plus incroyable, si à côté l'Android, il commence à avoir des fonctionnalités super simples et super intuitives grâce à ce qu'apporte l'IA générative, il y a un moment, l'iPhone va prendre un peu du plomb dans l'aile et on va acheter des Pixels, des Galaxy, etc. Et ce que je vous disais dans l'intro, à tel point, certains analystes se posent tellement la question qu'il y a une rumeur sortie par Mark Gurman sur Bloomberg qui dirait que Apple pourrait bien utiliser Gemini. Donc Gemini, c'est le... Tellement ils sont dans la merde, ils pourraient utiliser Gemini, le modèle d'intelligence artificielle de Google, à l'intérieur des prochains iPhone et du prochain iOS, sans doute iOS 18.
Ce serait fou parce que c'est pas du tout Apple de faire ça. Vraiment, ils détestent outsourcer leur...
Et surtout, c'est leur plus gros concurrent sur les smartphones. Enfin, en tout cas sur les smartphones, l'iPhone versus Android, ça a toujours été la guerre. Faire appel à Google pour ses capacités d'intelligence artificielle, ça serait très étrange.
Après, Apple, ils ont passé pas mal de contrats avec Google. Par exemple, Google, c'est le search engine par défaut sur iOS. Donc on sait qu'il y a déjà des petits trucs où ils travaillent
ensemble. Ils sont en
relation, c'est
ça, la théorie. Ils raquettent concrètement le plus offrant pour se positionner sur leur moteur de recherche. Mais effectivement, en général, c'est plutôt dans ce sens-là que vont les transactions.
Ouais.
Ils sont un peu plus en relation qu'avec Microsoft, ça c'est vrai, qui est un peu leur rival de toujours, non?
Ouais.
Ils ont des contacts Apple et Microsoft qui font des trucs?
Franchement, la suite Office, par exemple, sur Mac,
t'as
ça
raison,
a toujours
t'as
existé. Non, ça va pas si mal, hein, honnêtement.
Ouais.
Bon, bref.
Bon, en tout cas, il y a des jeux de pouvoir. Et tout ça inquiète beaucoup. Sauf qu'en coulisses, c'est un peu différent. En fait, Apple s'active énormément. Comment on le sait? Par plusieurs points. Déjà, premier point, Tim Cook, sans doute pour un peu rassurer les investisseurs, ne cesse de dire que cette année, c'est l'année de l'IA générative chez Apple. Surtout en plus que depuis qu'on a appris l'arrêt du projet de l'Apple Car, de la voiture d'Apple, et que certains employés allaient être mis à disposition des départements d'IA, Là, on martèle, enfin on martèle. On fait comprendre que ça sera l'année de l'IA générative pour Apple. Apple dépenserait 1 milliard de dollars par an dans l'IA générative à partir de maintenant. Là. Donc c'est le budget qu'ils ont prévu. C'est absolument énorme. Deuxième point, depuis 2017, Apple a racheté plus d'une vingtaine de startups liées à l'IA. La dernière en date, c'est Darwin AI. Et c'est globalement pour amener l'IA sur les téléphones mobiles, sur des appareils mobiles. Donc ils évoquent des voitures, mais aussi des avions, des téléphones, des montres. Et globalement, ils achètent une techno, mais bien souvent, ils achètent les cerveaux qu'il y a derrière, les chercheurs. C'est du recrutement par rachat de start-up, globalement. Et c'est honnêtement pas du tout étonnant que Apple ait racheté tant de start-up de l'intelligence artificielle. Honnêtement, c'est pas si différent que ça. Ils font ça dans un peu tous les domaines.
Ouais.
Ils ont racheté plein de trucs en VR pour l'Apple Vision Pro. Bref. Ouais.
Et juste dans les exemples de startups rachetées, est-ce que tu, enfin là typiquement Darwin, j'ai pas, enfin est-ce qu'on a des idées de à quoi ça leur sert typiquement ou...
Ben là, en premier lieu, dans le communiqué qui a été fait, de ce qu'on a compris de la personne qui travaille chez Darwin, c'est pour intégrer ça sur des appareils genre l'iPhone ou l'iPad. Passer de on fait de l'IA dans le cloud avec des gros serveurs à on fait tourner des modèles d'intelligence artificielle à l'intérieur d'un iPhone. Et ce
On suppose que c'est technique. Des technologies de miniaturation, de miniaturisation, ouais. De quantisation,
exactement.
D'inférence en
native. Et d'électronique aussi. Il me semble, j'ai pas mes notes sous la main, mais il me semble qu'il y avait ils avaient un avantage concurrentiel d'un point de vue électronique à vérifier.
Est-ce que du coup, ils feraient pas un peu comme Nvidia où ils embarqueraient l'IA directement dans leur hardware? Par exemple, Nvidia, bah, on sait maintenant, ils mettent directement dans leur carte graphique.
Ouais.
Du coup, Apple, vu qu'ils ont les processeurs M1 qui sont très puissants,
ouais.
Je crois que c'est A quelque chose pour les iOS.
Les A et les M, ouais.
S'ils arrivent à mettre de l'IA dedans directement, ce serait oufissime.
Ouais, c'est le cas depuis longtemps, hein, mais ils ont des modèles qui servent à faire plutôt de l'inférence sur l'image, ouais. Ou des choses comme ça. Mais ils n'ont pas de modèle de LLM.
C'est ça. Ils arrivent à exécuter des IA.
Ils n'ont pas de LPU finalement.
Ils n'ont pas de LPU, ils n'ont pas de grands modèles comme peut l'avoir Google. Microsoft avec OpenAI, ouais. et les autres.
Et c'est pas Siri qui va concurrencer tout ça, quoi.
Et pour l'instant, c'est pas Siri qui va concurrencer tout ça, mais peut-être.
On y revient.
On y revient. Et enfin, le dernier point où on sait que Apple s'active grandement sur l'IA générative, c'est qu'ils ont su faire preuve de beaucoup d'opportunisme. Je m'explique. En fait, il y a quelques années de ça, Google a dû faire face à quelques dramas dans son département IA. Je vais la faire courte, mais il y a eu des licenciements, notamment de deux chercheurs qui travaillaient dans le département lié aux questions éthiques des intelligences artificielles. Ils s'appellent Margaret Mitchell et Dimnit Gebru. Et ces deux licenciements ont fait beaucoup de bruit dans les actualités tech, mais aussi au sein de Google. Et ça, globalement, ça a un peu déstabilisé tout le monde. Il y a d'autres raisons, mais globalement, ça a un peu déstabilisé tout le monde, à tel point que le PDG de Google, Sundar Pichai, j'espère que je prononce bien, avait dû même s'excuser du licenciement et dire « on a diligenté une enquête, on va voir ce qui s'est passé ». Pour qu'ils disent ça publiquement, c'est que vraiment, ça a fait beaucoup de remous. Bref, ces licenciements et cette ambiance un peu morose, pas incroyable, a provoqué des vagues de départ des départements de Google AI. Et Apple s'est proposé en mode « Coucou, nous sommes là !» Et ils vont récupérer des membres fondateurs de l'IA de chez Google. Et c'est réellement des pontes dans leur domaine. Si vous voyez sur un CV quelqu'un qui a travaillé chez Google en IA dans les années 2010, c'est globalement une grosse brute. À commencer par le premier qui s'appelle John Gianandrea. C'était le chef du département IA chez Google. Et en 2018, il a été débauché par Apple pour faire la même chose. Il a pris la tête de l'IA chez Apple. Et il y a un deuxième homme super important, et c'est un petit crack monstrueux. Il s'appelle Sami Bengio. Et lui, il est parti suite aux deux licenciements. Il a vu les deux licenciements, et pour protester, parce que voilà, il n'était pas en raccord avec les licenciements, il est parti. Et il a été récupéré par Apple, très très beaucoup honnêtement, un peu plus tard, en 2021. C'était le cofondateur de Google Brain. C'est le projet qui a le mieux marché dans le projet Google X. C'était le labo de Google où ils faisaient un peu tous les projets chelous. Et en gros, c'est le projet qui a mis l'apprentissage profond au goût du jour. Et vraiment, c'est un énorme crack. C'est à lui qu'on doit Torch depuis Torch en 2002. Enfin, c'est vraiment. Et donc lui, il a pris en charge un département d'intelligence artificielle chez Apple. Et globalement, on a observé, forcément, quand on prend des grands ponts, ils ramènent des gens avec eux, il y a une fuite un peu des cerveaux chez Apple, de Google chez Apple, et aussi parfois d'autres sociétés comme Microsoft. Mais en fait, derrière ça, pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour une raison très précise. Derrière ça, il y a une raison. C'est que la plupart sont des chercheurs ou des universitaires. Et en fait, ce n'est pas des employés classiques. En fait, ces gens-là ont besoin de publier. Et de publier des articles dans des journaux académiques et dans des journaux de recherche. C'est ce qu'on appelle la liberté académique. Et cette liberté académique, avec le licenciement des chercheurs et avec la période un peu morose chez Google, avait un peu été mise à mal. Et donc, du coup, Apple, pour attirer ces chercheurs, a dû un peu faire une croix sur leur culture du secret de malade mental. Vous n'avez le droit de dire rien à personne. Et a sans doute dû leur assurer cette liberté académique. Oui, oui, vous pourrez publier vos recherches parce que c'est votre mode de fonctionner, en fait. Un chercheur, il fonctionne comme ça, il publie toutes ses recherches. Donc, en fait, pour l'IA, Apple a un peu dû changer son fusil d'épaule pour essayer de rattraper son retard.
C'est le seul moyen d'avoir les tout meilleurs chercheurs. C'est comme ça que Meta ont réussi à avoir les meilleurs chercheurs, etc., leur promettant de publier, parce que c'est ça qui fait vibrer des chercheurs, un peu plus que l'argent en général, d'ailleurs.
Et comme tu l'as dit, ils n'ont sans doute pas eu le choix de faire ça, ils les laissaient publier à leur bon vouloir. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce qu'en fait, c'est précisément grâce à ces papiers de recherche qu'on en sait un peu sur l'avancée d'Apple en intelligence artificielle. Parce que les chercheurs d'Apple, dans leur bureau, là, ils publient des papiers sur l'intelligence artificielle, sur l'évolution. Ils publient des bons papiers, des papiers très chouettes. Et aujourd'hui, je vais vous en parler de 4, il me semble. De 4, je ne sais plus. Si, je crois que c'est 4. En tout cas, de 4 papiers qui sont sortis de Google, et en fait, plutôt de 4 modèles. Parce que la première question qu'on peut se poser. Oui, juste avant, je disais, l'IA est évidemment déjà chez Apple. D'ailleurs, j'ai trouvé un cas d'usage très surprenant. L'IA est chez Apple via le machine learning. Quand vous écrivez sur un iPad avec un stylet, le fait que votre main touche l'iPad mais n'écrive rien, et ben en fait, derrière, c'est une fonctionnalité de machine learning. Et ben, je ne le savais pas. Je le savais pour plein d'autres choses. Je le savais pour les retouches photos, pour la reconnaissance faciale, mais pour ça, je ne savais pas.
Évidemment, c'est l'exemple typique de quand les gens disent « Mais Apple, ils sont nuls en IA !» En fait, voilà. C'est juste tu la vois jamais.
Mais justement, pour clarifier ça, évidemment, ils font de l'IA depuis des années, Apple. Ce qu'on veut parler là, c'est est-ce qu'ils entraînent des grands modèles, des LLM, des modèles de diffusion, des modèles de fondation qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que fait Apple ? Et donc, du coup, c'est ça la première question qu'on va se poser. Est-ce qu'Apple développe son propre modèle de fondation, son propre modèle de langage ? Et la réponse est oui. Et ils l'ont même publié en open source. Apple qui publie son modèle d'IA en open source, là, on croit rêver.
Si on nous avait dit ça.
Si on nous avait dit ça. Ça s'est passé en octobre dernier. Et il s'appelle Ferré, donc Furé en anglais, du nom de l'animal. Et en fait, c'est un modèle, c'est un MLLM. MLLM. Voilà, donc ça, c'est l'annonce d'un des chercheurs d'Apple. C'est un MLLM, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage multimodal. L'idée derrière, c'est d'avoir un modèle qui comprend et le texte et l'image. C'est pas nouveau, c'est ce que fait Gemini chez Apple, c'est ce que fait GPT-4 Vision, dont tu as déjà parlé dans l'émission. Et en fait, c'est intéressant parce que les modèles multimodaux, c'est un domaine de l'IA qui est encore pas mal en construction, où il y a encore pas mal de choses à faire. Et d'ailleurs, on le voit avec Ferré et les papiers de recherche. S'il y a des papiers de recherche, c'est qu'on itère beaucoup, on cherche les bonnes solutions. Il y en a d'autres. Il y a aussi, par exemple, un qui est open source, qui a été notamment fait par Microsoft, qui s'appelle Lava.
Ouais.
Et donc, tous ces modèles s'entraînent un petit peu pour essayer de trouver la meilleure sauce qui fera comme ce qu'on a fait au LLM. Maintenant, un LLM, ça marche très très bien. On sait, il y a toujours des avancées, mais on sait comment l'entraîner.
Alors, qu'est-ce qu'ils font justement ? Qu'est-ce qui est différent de ChatGPT de base ?
Eh bien, il y a 3 composantes particulières dans un modèle multimodal. Déjà, il y a un encodeur d'images. Donc, c'est lui qui va essayer de comprendre les images. Il y a un LLM, un grand modèle de langage. Lui, il va venir interpréter les demandes de l'utilisateur, donc les prompts, et il va produire le texte en sortie. Il va pouvoir interagir avec l'utilisateur et produire le texte. Et le dernier, c'est tout simplement un connecteur qui fait la connexion entre le côté vision du modèle, pardon, et le côté langage. C'est un peu les 3 composantes. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir sur les modèles multimodaux, c'est comment ils sont entraînés. On sait que ChatGPT a bouffé tout Wikipédia et on what milliards de textes. Et ben pour un modèle multimodal, c'est un peu différent. Il y a du texte, évidemment, toujours du texte, c'est très important parce qu'il faut qu'il puisse répondre à des questions. Mais il y a aussi des images seules et surtout il y a des images avec des légendes d'images. Donc des images légendées où on explique ce qu'il y a. Et en fait, pour essayer de l'entraîner, on vient entraîner le modèle à donner une légende à une image. On lui pose une question, il donne une légende à une image. Et son but, c'est de trouver l'image d'origine. C'est un, pour la faire très simple, c'est un peu comme, comme ça que les modèles multimodales sont entraînés. C'est vraiment des combinaisons. Légende d'un côté, image de l'autre, image et légende mélangées. Et ça fait ça tambouille, quoi.
Et alors, pour comprendre à quel point c'est intéressant, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait d'utiliser ChatGPT et de lui fournir une image et la description de l'image, qui est la manière un peu préhistorique de faire, où on avait des modèles... vous savez, quand, sur Facebook, vous pouvez avoir une légende de ce que vous publiez. Bah, en réalité, derrière, c'est un modèle d'IA qui est capable de décrire « Voici un homme avec les cheveux bruns qui porte une casquette avec des amis. »
Ah oui.
Et bah, historiquement, pour avoir des réflexions sur de l'image, enfin pour pouvoir répondre à des questions sur les images, on faisait des combinaisons comme ça de modèles entre eux. Là, c'est vraiment bien plus intéressant puisque c'est au niveau des vecteurs en fait que les rapprochements sémantiques se font. C'est-à-dire que si vous observez le connecteur du modèle multimodal, vous allez voir que à l'endroit où sont encodées les fonctionnalités, les features d'un chien, vous allez retrouver le mot chien.
Et donc, en fait, comme tu parlais de vecteurs, c'est dans la construction du modèle. C'est avant même que vous l'utilisiez. Il est né avec ça, il est né avec cette dualité.
Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avoir des réflexions complexes sur des images. Là, j'imagine que tu vas nous montrer des démonstrations, ouais, etc. Dites-vous à chaque fois que ça, c'est possible parce qu'on ne repasse pas par le texte, en fait. On reste au niveau vectoriel, entre guillemets, et ça, c'est ça qui permet à la fin au ChatGPT d'Apple d'avoir cette compréhension aussi fine de l'image.
En fait, on a enlevé le hack qui est on passe tout par du texte parce qu'on sait très bien, ouais, gérer le texte pour essayer de faire des choses. Là, c'est vraiment comme si c'était fait pour, quoi. Et donc, du coup, pour revenir au cas de Ferré d'Apple, ce modèle multimodal, c'est un modèle du coup de recherche. Il n'est pas destiné pour l'instant avec une licence commerciale. Il n'a pas de licence commerciale, mais dans les benchmarks, il se débrouille très très bien. Et en fait, il est capable d'identifier super précisément, d'encadrer sur une image ce qu'on lui demande de trouver. Donc, par exemple, on lui dit bah, « Trouve-moi le chien sur cette image ». Bon, il l'encadre, c'est cool. Mais après, on peut continuer la discussion. On peut lui dire « Dans quel état semble être le chien ?» Là, il peut te dire « Voilà, il est plutôt dans un... » Là, ils disent « Il est plutôt dans un état friendly. Il interagit avec son camarade, il est content. » Et en fait, cette deuxième étape de demander des précisions, elle est super dure. Et c'est l'exemple du chien, mais il y a plein d'autres... Voilà, bah, là, par exemple... vous avez, alors je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas vous pouvez d'un côté avoir une image, de l'autre interagir avec votre modèle et il va vous répondre et en même temps vous montrer ce qu'il faut vous montrer. Et alors il y a un autre usage pour lequel Ferré est incroyable et moi ça m'a vraiment convaincu. En fait Ferré il est bon pas forcément sur l'image en global, comme GPT Vision est très bon pour ça, mais il est très bon sur des régions très très spécifiques. Ils appellent ça l'ancrage et par exemple pour résoudre un captcha, Ferré est bien meilleur que GPT 4 Vision, en tout cas de ce qu'ils annoncent. Et par exemple il y a un captcha, ils ont fait un exemple avec des feux de circulation. Et Ferré, bah, il arrive à identifier exactement quelle case il faut cocher pour avoir les... Alors, il va falloir zoomer très fort. Mais il s'en sort mieux que... Alors, d'après eux, il s'en sort mieux que GPT Vision. Et voilà, c'est juste là. Hop là.
Je trouve ça tellement drôle que sans aucun complexe, les chercheurs sont en mode « Alors, comment contourner les captcha que mes collègues ont mis en place ?»
Oui, parce qu'en fait, ça sera jamais montré dans une keynote, évidemment. C'est des papiers de recherche, c'est des trucs où ils s'en foutent de montrer ça.
Après, c'est un super bon test pour.
Mais c'est un super bon test.
On se rapproche de l'humain, en fait, de comment nous on fonctionne. Se dire bon bah ça c'est le test depuis.
Ultime, entre guillemets.
Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on utilise des captcha comme ça. Ouais. Et se dire bah ouais, je suis un humain, je suis pas un robot. Et maintenant que les robots ils sont là, bah non, moi aussi je suis un humain. J'entends votre boîte.
Et rapidement ils vont arriver à des meilleurs taux de réussite que nous. C'est ça qui est flippant. Et surtout ce qui est vraiment intéressant avec cet ancrage, c'est la spatialisation.
Oui.
Habituellement, beaucoup de modèles multimodaux, Ils savent te décrire ce qui se passe, mais pas du tout...
Dans sa globalité.
Exactement, ils n'ont pas de rapport avec l'espace. Et ça ouvre plein de possibilités en termes de fonctionnalités qui sont sympas.
Et c'est ce qu'ont voulu montrer les chercheurs d'Apple, c'est vraiment qu'il est très très précis, il arrive à choper des trucs très précis dans une image, genre un feu de circulation que tu ne vois pas bien dans une image découpée en 16.
Il y a un exemple aussi avec le scooter, je ne sais pas si tu...
Il faut que tu le retrouve, mais... je sais pas si tu veux l'expliquer
Si mes souvenirs sont bons, il lui fournissait une image d'un scooter avec un modèle très spécifique en lui demandant où était une pièce qui était en fait au niveau du moteur, je crois, je sais plus.
Ouais, du pot d'échappement, ouais, il me semble.
Il te montre la différence entre l'IAVA, enfin les autres modèles concurrents. Et évidemment, donc, tout le monde est à côté de la plaque, alors que lui, il arrive à pile trouver la pièce qui correspond à la description, avec l'encadré, surtout ça, c'est hyper puissant. Imagine ça intégré dans un casque, par exemple, ou un truc comme ça. Tu pourrais voir une surbrillance en temps réel, où Jarvis t'explique que tu devrais aller resserrer tel écrou.
J'ai des problèmes de machine à laver en ce moment. T'imagines si on me montre la pièce que je dois remplacer exactement. Enfin, moi, je pense à ça, voilà. Mais...
C'est comme ça qu'a été marketé GPT Vision, d'ailleurs. Il disait, si vous voulez réparer un vélo, faites des photos, tout ça. En l'état, c'est pas aussi poussé.
En l'état, justement, à cause de ces problèmes de spatialisation, on en est très loin. Et surtout, la différence supplémentaire complètement dingue avec GPT Vision, c'est la taille des modèles. Parce qu'en fait, tu me dis si je me trompe, mais là, c'est des modèles de 7 milliards.
7 et 13 milliards de paramètres.
13 milliards de paramètres. Autant dire que le 7 milliards, il peut tourner sur un iPhone.
Oui.
Sans problème.
Alors 7 milliards, ça tourne sur un iPhone.
GPT 4 Vision, il faut un data center pour le faire tourner. Donc,
et GPT 4 Vision est aussi très puissant. On va dire qu'ils sont complémentaires, mais en effet, c'est pas ici le même but. Et puis là, c'est un proof of concept. Tu peux l'installer parce qu'il est disponible en open source, donc tu peux l'installer sur ta bécane ou sur un serveur et tout. Mais voilà.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Ça,
c'est le premier modèle.
Ça, c'est le premier modèle, et c'est peut-être celui le moins impressionnant. parce que Ferré, en fait, c'est vraiment une première étape, et puis c'était en octobre. Depuis octobre, il s'est passé quelques mois. Apple va continuer dans ce sens, et en février, là, récemment, il y a à peine un mois, ils ont sorti, alors, MGIE, je ne sais pas comment le prononcer, MGIE. Justement, il se base sur l'AVA, dont on en a parlé, qui est un autre modèle multimodal open source. Et alors, c'est le même concept, un modèle multimodal, mais maintenant, au lieu de juste analyser une photo, il peut retoucher une photo via des prompts. Donc, par exemple, si tu ne sais pas du tout utiliser Photoshop et que tu n'as jamais utilisé Photoshop, tu vas pouvoir retoucher une photo avec du texte ou... On l'imagine plus tard, potentiellement, avec de la voix, parce que tu pourras forcément faire une retranscription voix tout texte. Et ce qui est incroyable, c'est que ça peut faire des choses très précises, comme... alors voilà, c'est des exemples. Donc la première, par exemple, tu peux transformer une photo du tout au tout.
C'est hyper cool. Donc là, on voit un paysage avec un lac, et où il rajoute des réflexions, des éclairs et des réflexions sur l'eau.
Et juste avec un prompt. Et donc, ça peut faire des choses comme ça, très générales, mais ça peut faire aussi des choses très précises, comme enlève-moi ce photobombe, ou enlève-moi ce brosse à dents qui dépasse, ou je sais pas ce qu'on peut...
Ajoute-moi un soleil couchant sur cette photo.
Et voilà, typiquement, toutes ces choses-là pourront devenir super simples à utiliser, sans avoir... On sait évidemment le faire, mais sans avoir besoin de faire autre chose. Et donc, c'est franchement, en retouche photo, c'est super prometteur.
Remove text. Ouais. Oh, le watermark qui disparaît.
Alors ça, par contre...
Vraiment, c'est des gangsters. C'est à mourir de rire.
Mais c'est ouf, parce que ça, c'est vraiment parce que le modèle est multimodal. C'est, par exemple, Dali, on sait qu'il peut remplacer comme il peut sur des images, mais on ne peut pas passer exactement par le texte et lui faire dire, qu'est-ce qu'il y a sur l'image, et en plus lui faire des retouches. Là, c'est parce que c'est multimodal qu'on peut faire sur le même modèle.
Et en fait, Dali va être très très bon pour générer une image, mais modifier une image existante, alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais c'est, à
ça
l'époque,
se fait,
c'était
mais
galère.
C'est largement c'est un peu galère, pas à ce niveau.
Ouais. Et je pense que là, c'est méga optimisé, et en effet, Dali, en fait, n'est pas vraiment fait pour ça, il n'a pas été entraîné.
Surtout, ce n'est pas de la multimodalité, il est intégré avec ChatGPT, mais comme on a dit, c'est une sorte d'extension qui repasse par le texte à un moment donné. Là, c'est directement dans le modèle, quoi.
Et d'ailleurs, Google commence à le faire avec Gemini, qui est un modèle multimodal, et ça, on voit des choses chouettes, mais on est content de savoir que Apple est dans les rangs, et c'est là, et enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très, très prometteur de tous les exemples qui ont cité. Pour le coup, ça, on n'y a pas accès. Troisième modèle, et c'est toujours en février, on va petit à petit crescendo, on voit apparaître sur les radars quelque chose qui s'appelle Keyframer. En fait, c'est une application des grands modèles d'IA, mais cette fois-ci, non pas à une image fixe, mais à de l'animation et à du motion design. Et honnêtement, dans l'IA, c'est un domaine très complexe, parce que ça nécessite...
Personne ne s'y attelé actuellement.
Non, enfin, il y a sans doute des acteurs spécialisés qui y sont attelés, mais en tout cas, c'est très très dur. En fait, le but de Keyframer, c'est à partir d'une image statique, de créer tout simplement une image animée, mais via des commandes en langage naturel, comme pour la retouche photo juste avant. C'est-à-dire, vous pouvez dire, bah voilà, anime-moi ce soleil, je veux qu'il se lève et qu'il se couche, par exemple.
Si ça marche vraiment, genre, c'est tellement...
Alors, pour l'instant...
Je vois les gens dans la régie en sueur.
Non, mais le temps que je me souviens avoir passé à faire tes... Ça s'appelle Keyframer, parce que du coup, ça, c'est par rapport aux images clés qu'on utilise dans les logiciels de motion design. Qu'est-ce que c'est long et complexe de faire la moindre chose.
Non, mais c'est... Souvent, t'abandonnes, en fait. Enfin, sauf si c'est ton métier, évidemment, si t'es dans le motion design, si t'es quelqu'un comme vous et moi.
Ça, c'est la haute...
Waouh. Attends, explique-nous.
Alors, en fait, en entrée, vous fournissez une image en SVG, donc une image statique. Derrière, vous faites votre prompt.
D'accord, explique, parce que...
Une image SVG, c'est bah, juste une image comme en JPEG, mais...
Et qui est en vectoriel. Donc là, c'est quand même un élément important, c'est que les calques, entre guillemets, sont contenus dans le format. C'est-à-dire que c'est pas simplement une matrice de pixels, ça correspond quasiment à un fichier de montage ou...
Par exemple, si vous développez des sites web,
exactement.
Vous savez évidemment ce que c'est un SVG, mais en effet, c'est vectoriel, c'est une image vectorielle, et c'est vrai que c'est très important. Et en fait, derrière, vous lui faites un prompt, vous lui dites, voilà, je veux animer ça. Et en fait, il fournit le code CSS, donc c'est-à-dire pour animer... je crois que c'est bien ça, pour animer l'image. Et du coup, vous avez deux solutions. Soit vous prenez ce code et vous pouvez l'arranger à votre manière, soit vous pouvez continuer à parler à Keyframer pour dire, ok, t'as fait ça, est-ce que tu peux changer en ça? Et vu qu'il t'a généré, il t'a pas juste généré, en fait, c'est pas comme si Dali vous envoyait une image animée. Oui, là, oui. C'est vraiment, il envoie le code pour animer l'image. Je trouve ça incroyable.
C'est très intéressant. Alors, je me demande jusqu'où il peut aller en termes d'animation, parce qu'effectivement, là, il a réussi à faire une rotation, par exemple. Là, il a combiné une rotation avec le fait de
changer les couleurs,
de changer les couleurs avec un pulse. On voit qu'il fait ça toutes les deux secondes.
Et ça, pour le coup, c'est une vidéo qu'a fait Apple. Donc, ils ont un petit peu communiqué dessus. Mais alors, sauf si je me trompe, on n'y a pas accès. Donc, c'est, en fait, là, on est un peu obligé de faire confiance.
Ouais. C'est sympa, quand même.
À la publication d'Apple. C'est sympa, hein. Le comment ça s'appelle, là, l'anneau de la planète qui tourne, franchement.
Petit wiggle.
C'est très cool, quoi.
Je me demande si sur le long terme, ils ne voudront pas générer leur propre SVG. Et finalement.
Enfin, la première étape, tu veux dire, et pour que tout soit. Ouais, effectivement.
Que tout soit automatisé de A à Z.
Très cool.
Très cool. Alors, je le disais, c'est complètement expérimental, mais ils ont quand même fait l'effort de faire une petite vidéo et tout. C'est complètement expérimental, mais en fait, je voulais montrer cette chose parce que déjà, on peut commencer à imaginer des cas d'application, pardon. Je voulais vous montrer Keyframer parce qu'on peut commencer à imaginer des cas d'application assez précises en peut-être montage vidéo ou image animée sur un site web ou depuis son... Enfin,
franchement, je pense que dans le montage, il y a un potentiel de fou. Par exemple, si vous voulez faire un tuto en 30 secondes...
Sur TikTok ou sur Insta.
Ouais, ou juste vous raconter comment faire une recette de cuisine. Et hop, Apple vous génère tous les petites icônes et vous les anime en temps réel.
Et parce que souvent, sur un TikTok et Insta, on fait des facecam parce qu'en fait, c'est le plus simple et t'as pas envie de faire beaucoup de montage. Mais là, si tu peux rajouter une image, juste une image que tu prends sur Internet et que t'animes pour illustrer un propos, moi, je me vois tout à fait faire ça sur un iPhone pour faire un petit truc de 30 secondes, une minute, expliquer, vulgariser rapidement une notion, par exemple. Tu t'animes un graphique tout seul, quoi. Enfin, franchement, ça peut être très, très chouette.
Et là, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire un pont entre l'image, le rendu du SVG et le code et le code de l'image. Et je me demande comment ça fonctionne, mais c'est assez impressionnant. Ça veut dire que quand toi, tu demandes « fais bouger la lune »,
Il sait lire
l'image et savoir qu'est-ce qui est la Lune et à quoi correspond une animation CSS de Wiggle, par exemple, et à l'appliquer sur le bon élément. C'est celui
où on a le moins d'infos, et c'est peut-être pas pour rien. C'est parce qu'en fait, derrière, il doit y avoir des techniques plutôt cool. Et je trouve que ça illustre très bien de Apple essaye vraiment de rattraper le retard et ils nous ont pondu un modèle franchement très très chouette. Tu voulais rajouter quelque chose ? Et justement, ils essayent de rattraper le retard en faisant une seconde chose. Et rattraper le retard, ils vont passer par une seconde chose, ils vont s'adresser aux développeurs. Tu le disais un peu tout à l'heure, cette fois-ci, et je vous présenterai le dernier modèle juste après, cette fois-ci, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un outil, en fait, c'est davantage une démarche. Apple, ils ont lancé en décembre dernier, et c'est un peu passé comme ça, on ne l'a pas trop vu, leur framework de machine learning optimisé pour les puces Apple Silicon. Donc tout ce qui est les puces A qui sont dans les iPhones et les puces M qui sont dans les Mac et certains iPads. Et ils l'ont publié en open source, une fois n'est pas coutume. MLX, tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas dit le nom, ça s'appelle MLX. Et ils ont fait ça de façon très intelligente. Ils ont repris les codes du framework phare dans le milieu qui s'appelle PyTorch, et que tous les devs utilisent. Et puis, ils ont livré ça avec des API en Python, en C, en C++. Ils ne l'ont pas que livré en Swift. C'est ça que je veux dire, le langage de programmation d'Apple. Et clairement, ils ne font pas ça dans tous les domaines, Apple, de fournir un outil incitatif, open source, gratuit, pour inciter les développeurs à développer des applications d'intelligence artificielle pour Mac et pour iPhone. Alors, entre nous, c'est une super idée.
Super idée.
Mais en fait, c'est une super idée parce qu'ils sont en retard et que c'est une super idée pour rattraper leur retard. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que dans les exemples, ils ont publié ça sur GitHub, ils ont publié des exemples et ils te montrent comment utiliser Whisper avec MLX, comment utiliser Stable Diffusion avec MLX. Donc, Whisper, c'est pour l'audio, pour transcrire de l'audio. Stable Diffusion, c'est pour générer des images. Comment utiliser Lava, dont je vous parlais tout à l'heure. Bref,
ils ont des démos pour tous les modèles un peu à la mode, entre guillemets.
Tous. Et c'est trop bien.
Ouais, c'est super malin. Et surtout, la plus grosse innovation, c'est que des développeurs et des chercheurs vont enfin pouvoir utiliser la même technologie du début à la fin pour designer leurs modèles, pour imaginer leur fonctionnement et pour les intégrer en bout de chaîne dans des applis que des vrais gens vont utiliser. Alors qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Les chercheurs, ils travaillent sur des frameworks vraiment spécialisés sur Python, etc. Et derrière, on utilise des outils de conversion pour rendre ces modèles à peu près potables pour des applis en prod, quoi. Donc ça c'est une nouveauté qui fait vraiment plaisir à énormément de gens, surtout qu'en termes de performance, ils ont mis un peu de temps à être au niveau. Mais là, petit à petit, on a vu qu'ils rattrapaient le travail qu'avait fait la communauté sur llama.cpp, par exemple, etc. Et là, petit à petit, en fait, MLX est en train de devenir parfaitement compétitif en termes de performance et surtout hyper rassurant en fait pour tous les développeurs parce que c'est un truc backé par Apple. Ouais, on sait que évidemment, quand il y aura des problèmes, des bugs, etc., ils seront là pour les corriger. Et donc, c'est un super...
Ça montre, on est là, on est derrière.
C'est un gage de sérieux et c'est hyper incitatif pour tous les développeurs qui veulent faire du ML.
Surtout que c'est aussi d'un point de vue commercial, c'est énorme parce que on sait qu'il y a beaucoup d'apps comme Snapchat, TikTok qui utilisent énormément de machine learning, par exemple pour les filtres. Chaque fois qu'on utilise un filtre, il y a de l'IA derrière. S'ils arrivent à derrière embarquer et de dire sur iOS, vous avez tel filtre disponible parce qu'on peut embarquer grâce à MLX des modèles un peu plus performants que ce qu'on a nous côté serveur. C'est d'un point de vue commercial, c'est oufissime. C'est toujours été dans la philosophie d'Apple d'avoir les features que les autres ont, mais en mille fois mieux. Et là, avoir un truc comme ça, c'est ouf.
Et en fait, s'ils l'ont fait aussi simplement et efficacement qu'avec l'open source et avec le gratuit, c'est qu'en fait, ils en ont besoin. Notamment pour essayer de rattraper leur retard, mais pour draguer tous ces développeurs et en fait emmener tout le monde dans leur barque, chose qu'ont fait Facebook et Google depuis bien longtemps. Mais en fait, là, c'est vraiment, il faut le voir comme un signal très très important, même si c'est potentiellement un peu anecdotique parce que ça s'adresse qu'aux développeurs. Mais en tout cas, c'est un signal très important que Apple s'est vraiment mis dans l'IA et également dans l'IA générative. J'en viens, tu voulais juste avant. Non, j'en viens à mon dernier point. Le dernier modèle, et honnêtement, c'est le plus prometteur, il a été annoncé tout récemment. C'était à la mi-mars. c'est son dernier né, il s'appelle le MM1 ou le MM1. C'est leur nouveau modèle de langage multimodal. Voilà, c'est un ingénieur d'Apple qui l'annonce. Pour le coup, il est un peu comme Ferré, mais pour le coup, il n'est pas open source. Et en fait, il ressemble à un modèle qu'on pourrait trouver en production. C'est plus forcément un modèle que de recherche. On sent que là, ça pourrait peut-être sortir. Pourquoi
c'est
je
trop
dis
bien
ça
pour être publié.
C'est un peu trop bien pour être publié. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, ils ont une famille de modèles. Ils n'ont pas que un ou deux modèles. Ils ont une famille de modèles de 3 milliards jusqu'à 30 milliards. Ils ont des versions spécifiques dont tu as parlé une fois, qui s'appellent les versions MOE, donc des versions spécifiques qui potentiellement peuvent être encore plus efficaces dans certains cas. Ils ont des versions chat, donc ce qu'on appelle des versions instruct, pour faire des chatbots, donc déjà fine-tunés. Bref, on sent que là, ça commence à ressembler à ce qu'on a vu sur OpenAI ou Facebook il y a, je dirais, un an et demi. Ça commence à ressembler à un vrai modèle multimodal. Et côté benchmark, de ce qu'ils nous annoncent, ça rivalise avec des bons modèles multimodaux. Ils disent qu'ils arrivent à réaliser avec GPT-4 Vision et Gemini. Il faut les croire sur parole.
Il faut les croire sur parole.
Honnêtement. Mais c'est dans le papier de recherche.
Mais moi, je trouve que le nom Apple, et je vais expliciter ce que je veux dire, mais le nom Apple met en confiance. Pourquoi ? Tous les autres gens qui sont sur ces benchmarks, quasiment, ne sont pas directement en lien avec les utilisateurs finaux. Ce qu'ils font, c'est vendre des solutions d'IA pour, après, des Microsoft, des intermédiaires, en fait. Ouais. Et ils ont tout intérêt à démontrer que leurs benchmarks sont au top, que leurs modèles sont hyper compétitifs, sans nécessairement avoir la responsabilité de « est-ce qu'à la fin, ils sont bien ?» Et c'est ça qui est fourbe, c'est que très souvent, tu vois des benchmarks incroyables et le résultat pêche. Or, on sait que Apple... jamais ils se permettront de publier des modèles et d'utiliser des modèles qui, sur le papier, en benchmark, sont bien, mais pour les utilisateurs finaux, sont pas au niveau. Ouais. Quoi. Si on peut les croire
leur
sur un truc...
Leur réputation est trop importante.
Exactement. Si on peut les croire sur un truc, c'est que ce qui leur importe, c'est l'expérience utilisateur finale. Et donc, je les crois beaucoup plus sur la pertinence et la qualité de leur modèle que les autres.
Ah, perso, je vais quand même émettre un petit doute. En ce moment, il y a une hype sur les IA qui est non négligeable et il y en a beaucoup qui ont rush leur modèle. Par exemple, Gemini, quand il faisait de la génération d'images, ils ont dû l'enlever parce que c'était n'importe quoi, on pouvait générer tout ce qu'on voulait. Et en fait, on sent qu'il y a ce rush en ce moment. Donc d'un côté, je suis d'accord avec toi, Apple, c'est un gage de qualité de ouf. Mais d'un autre côté, vu qu'on est dans un écosystème où tout doit aller vite et on veut rush et dire « nous, ici, on fait ça », c'est là où j'ai mon petit doute.
Peut-être, mais je trouve que s'ils avaient voulu faire de la com autour de ça, ils en auraient fait, en fait. Or, ils n'en font aucune.
C'est-à-dire accès à la recherche.
Ça ne les intéresse pas de se faire mousser. Ouais. Et donc, je me dis que la seule raison de le faire ça, c'est de l'intégrer vraiment dans des fonctionnalités à la fin. Or, si elle ne marche pas, l'utilisateur, que ce soit un LLM ou je ne sais pas quoi, il n'en aura rien à foutre.
Apple ne nous vendra jamais le MM1, il nous vendra des iPhones. on peut peut-être juste prendre un ou deux cas d'usage de ce fameux modèle MM1. Un des premiers, c'est tout simple, reconnaître un nombre. Alors, c'est de la reconnaissance de caractère, mais il y a beaucoup de chiffres et il le fait vraiment sans se tromper. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça, mais là, je trouvais que celui-là était intéressant.
Surtout c'est pas des modèles faits pour ça. Et donc, s'il y arrive quand même, c'est
bon. Ça veut dire que c'est franchement puissant. Le deuxième, c'est mon petit préféré. C'est un où il prend une photo de sa table avec ses consommations. Donc là, en l'occurrence, des bières. Et il y a une photo du menu. Et il est capable de calculer l'addition.
Ok.
J'ai trouvé ça...
C'est pas mal.
Incroyable. Vous allez pouvoir voir l'image. Et en fait, tu vois la conversation qu'il a. Et ils ont fait évidemment le texte avec d'autres modèles pour comparer. Évidemment, MM1, j'ai envie de dire MMA à chaque fois. MM1 s'en sort super bien. Mais
si tu zoomes
un peu sur les images...
De la langue et de la vision combinée. C'est qu'il arrive à détecter à la fois le fait que c'est une bière et en même temps que ça correspond à telle référence sur le menu.
Ouais.
Et à faire le calcul en plus en bout de course, c'est quand même assez magnifique.
Il faut se rappeler, il y a 2 ans, ChatGPT n'arrivait pas à faire 3 additions. là, on est sur un truc vraiment différent. Quoi.
On peut s'imaginer que tu pourrais avoir pareil dans ton casque ou sur ton téléphone. Prendre...
Tu veux le casque. Hein.
Pourquoi je prends ces exemples? C'est parce que c'est une manière d'utiliser ces outils-là sans que tu aies aucune action à faire. Juste ouais. par défaut, les caméras, elles sont là, ouais. Elles ont ces informations, et elles peuvent juste te faire gagner du temps sans qu'il y ait de friction. C'est pour ça que je prends cet exemple. Mais typiquement, là, tu regardes ton frigo, et hop, il te dit quels sont les menus que tu pourrais faire, combien de calories, machin, prends tel truc, mets-le dans... On va devenir un peu assisté, mais...
ou c'est Arthur, tout à l'heure, qui parlait de la cuisson, détecter si quelque chose est cuit ou pas, si tu cuis un truc un peu... Je dis pas ton steak du lundi, mais un truc un peu compliqué.
Moi, je sais jamais dire si un truc est cuit. Et là, tu prends une photo de ta tarte, et hop, il est capable d'aller chercher sur Google, voir des équivalents de ta tarte aux pommes, et te dire si jamais c'est censé ressembler à ça. Chose qui ne serait pas possible sans vision, sans capacité à voir. C'est pas avec du texte Google que tu pourrais...
J'ai un cas d'usage un peu nul, et je sais pas si c'est peut-être trop précis, mais imagine, t'as fait des pâtes et t'as oublié le minuteur des pâtes. S'il est capable de te dire quand tes pâtes sont cuites à l'image.
Ça sent tellement le vécu.
Je pense que les gens vont se foutre de notre gueule.
Évidemment.
Ce qu'ils doivent justifier pour cette débauche de recherche.
Non, ça ne sert à rien.
Imaginez les applications dans l'espace, à la NASA, tout ça, et lui, il me parle de cuire des pâtes.
Non, mais c'est parce qu'on est parti sur la cuistoche.
Non,
là.
Mais oui, oui.
Ouais, c'est vrai.
Mais évidemment qu'il y a d'autres applications.
En fait, très souvent, ce genre de modèle-là, on va jamais les voir en réalité. C'est dur d'imaginer l'application, la fonctionnalité qui tue, qui va nous faire acheter un iPhone. Parce qu'en réalité, très souvent, c'est pas nous qui allons interagir avec. Ça va être une brique
ouais,
dans des chaînes un peu plus longues qui vont combiner une compréhension de l'audio, de la vision et du texte. Et à la fin, on va juste avoir Siri qui est capable d'interagir avec une pizzeria pour nous commander des trucs parce qu'il a scanné le menu, qui sait qu'on n'aime pas les pizzas hawaïennes. Et enfin voilà, tu pourrais avoir du point de vue de l'utilisateur, juste un sentiment que ton téléphone est intelligent, mais derrière, en fait, ça va être grâce à des briques de ce genre, en fait.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la qualité d'Apple, c'est vraiment créer un écosystème ergonomique où tout est transparent pour l'utilisateur. Y avait Google qui avait essayé de faire ça, où il disait on peut commander une pizza à travers le Google Assistant. Et ils avaient fait une démo et tout le monde était en mode...
Sorti.
C'est jamais sorti. Mais c'était oufissime, la démo.
C'est vrai que la démo dans la keynote était impressionnante.
Ouais. Moi, je me suis dit, c'est bon, je commande des pizzas automatiquement. C'est trop bien.
Non, très hypant. Et moi, je viens de penser à des commentaires que j'ai vus comme quoi on est un peu trop fanboy d'Apple. Ça va pas s'améliorer.
Oui, mais pourtant, j'ai pas arrêté de dire que Apple est en retard. Donc,
c'est vrai, merci.
Non, mais honnêtement, et c'est le cas.
Oui, non, mais c'est vraiment le cas. Je dis ça parce qu'on n'a même pas fait exprès, mais c'est vrai que les quatre dernières chroniques, on a pas mal de trucs sur Apple. C'est juste ça nous intéresse, voilà, laissez-nous tranquille.
Mais je vous ai quand même dit que si Apple fait rien, clairement, Google sont bien en avance d'Apple.
Voilà.
Gemini, et là, tout ce qu'on montre, ce n'est pas en production. Gemini est capable de faire peut-être 70% de ce qu'on a dit, et c'est en production. Voilà. Pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. mais en tout cas, alors, on parlait des applications. Il y a un tweet du créateur de Siri. Tu parlais de Siri, peut-être que ça sera intégré à Siri. J'ai trouvé que son tweet était particulièrement opportun. On va vous l'afficher et puis je vais vous le dire. Oui, du coup, voilà, c'est exactement ça. Il dit « Siri fera des nouvelles choses intéressantes en... » Il répondait à un tweetos. « Siri fera des nouvelles choses intéressantes en 2024, puis l'accélérat deviendra une véritable force dans l'arène de l'IA. Apple occupe une position unique pour permettre de nouveaux cas d'usage, cas d'utilisation utiles et inattendus du LLM. »
Et lui, il est vraiment chez Apple, lui.
Il est chez Apple et c'est le CEO de Siri.
Mais non.
J'ai trouvé ça très, très, très étonnant d'avoir des prises de parole comme ça du créateur et patron de Siri. Et puis, dans un tweet juste après, il commence à imaginer, hypothétiquement, des cas d'usage. Et donc, dans le premier, globalement, il dit « Est-ce que tu peux mettre cette chanson dans une playlist, mais sur Spotify, qui n'est pas une application Apple ?» Pourquoi il a pas dit Apple Music ? Non, mais tu vois,
augmenter la difficulté. Ouais,
c'est pour augmenter la difficulté parce que forcément, dans le même écosystème, c'est un peu plus simple. Puis le deuxième exemple qu'il prend, c'est pas fort compliqué. Il programme des alarmes pour se réveiller. Sauf qu'en fait, il met plein de subtilités. C'est-à-dire que en fonction du jour, tu vas me réveiller à telle heure. Mais si j'ai un rendez-vous programmé le lendemain à telle heure, il faut que tu avances mon réveil. Et en fait, il dit ça dans une phrase en langage naturel. Et le but, c'est que Siri, il soit capable de tout programmer parfaitement du premier coup. Sans se tromper.
C'est marrant, mais je trouve qu'il manque d'imagination.
Ouais, et un peu, ouais. Tu sais quoi, le tweet d'après, si t'arrives à le retrouver, il demande aux gens, est-ce que vous avez des cas d'usage à me proposer?
Bah, c'est marrant. Moi, je trouve qu'il manque d'imagination parce que là, tout ce qu'il a fait, c'est combiner plusieurs requêtes que tu pourrais faire à Siri en une. Or, si jamais le problème de Siri actuellement, c'était le fait qu'il faut poser plusieurs questions d'affilée, ça saurait quand même.
Ouais.
Juste personne n'utilise Siri parce que il est pas bien malin et en fait les gens n'aiment pas parler.
Oui. Mais voilà. Ça c'est le problème de base, c'est qu'en fait on déteste parler sauf quand on est seul et c'est rare qu'on soit tout seul. Enfin moi
exactement.
Je le vois.
Donc moi je pense que les seules possibilités que je me mette à utiliser Siri, c'est si vraiment on passe encore une étape en termes de fonctionnalité. Par exemple, réserve-moi un hôtel ou je sais pas quoi un truc.
Ouais.
Si vraiment tu
gagnes beaucoup de temps.
Tu gagnes vraiment un quart d'heure, là, avec plaisir. Tu vois,
je sais que si je suis pas tout seul dans ma pièce, je ne vais pas lancer mon minuteur avec Siri. Pourtant, c'est un peu plus rapide. Ouais. Mais parce que juste, j'ai pas envie de parler à
d'avoir l'air con.
Un téléphone imaginaire.
on parlait tout à l'heure du casque, mais en rigolant. Mais en vrai, ça, c'est une utilisation assez cool parce que c'est très passif. Tu dois pas aller dire « Hey Siri, fais-moi ça ». Ça reste un assistant qui regarde ce que tu fais et donc peut vraiment intervenir au bon moment. Il y a beaucoup de gens dans l'open source qui font leur propre Jarvis. On voit des vidéos assez dingues. Et je pense que c'est un cas d'usage où on veut que l'assistant regarde ce qu'on fait, mais pas qu'on ait à intervenir pour l'appeler et lui demander de faire des trucs.
C'est bon, ça parle de Luc Julia dans le chat.
Ah,
qu'on avait reçu effectivement une certaine.
Mais il travaille plus chez Apple, il travaille chez
l'ancien papa de Siri.
L'ancien papa de.
Il disait lui-même qu'il était un peu débile dans la première version, et ce qui est fou, c'est que ça n'est pas bougé en 20 ans.
Voilà, on n'aime pas tant Apple que ça finalement.
Voilà, c'est bon.
En tout cas, maintenant, on sait qu'Apple met complètement les bouchées doubles, pour essayer de rattraper le retard sur la concurrence. Et on sait qu'en fait, ils en sont capables. Parce qu'ils ont publié, de par les experts qu'ils ont débauchés depuis 3, 4, 5 ans chez Google et certains chez Microsoft. Et là, la question un peu en suspens, c'est est-ce qu'Apple va annoncer des fonctionnalités incroyables à la prochaine WWDC, donc c'est la conférence pour les développeurs, elle se passe en juin. S'ils le font pas, ça sera un peu décevant. S'ils le font, mais c'est Gemini derrière de Google, ça sera un peu décevant, mais ça voudra dire qu'ils ont encore du travail à faire. Il y a une question aussi un peu en suspens, c'est est-ce que ça sera une stratégie plutôt cloud comme le fait OpenAI, donc on appelle une intelligence artificielle dans le cloud, ou alors en local. On sait qu'ils ont déposé un papier de recherche qui a fait un peu de bruit pour le coup sur comment installer un modèle de langage sur un iPhone. Ça s'appelait LLM in a Flash. Et puis ça serait un peu plus en cohérence avec leur politique de vie privée, de faire un modèle d'IA en interne sur les appareils type Mac, iPad, iPhone. Bref, il y a un peu de questions en suspens, mais et surtout qu'en fait là, tout ce qu'on a montré, c'est des recherches. Il y a un grand pas entre la recherche et la production, mais on attend de voir si Apple va pouvoir revenir dans la course de l'IA générative.
Très intéressant. Sur ça, en fait, on ne sait pas sur le côté local, parce que pour rappel, Siri a toujours marché à distance, c'est-à-dire tous les
ils ont fait des changements.
Il y a eu un moment.
Quand il y a eu un drama.
Il y a eu un petit modèle en local qui est capable de faire certaines choses, mais pas tout en gros.
Il y a certaines tâches, ils sont capables de le faire en local.
Mais
maintenant.
C'est ça. Mais à la base, juste on envoyait nos voix, et c'est toujours un peu le cas.
Mais la preuve, sur
Internet.
Mais la preuve que c'était une semi-bonne raison, c'est qu'à un moment, il y a eu un petit drama justement où on s'est aperçu qu'ils récoltaient trop nos données et ils ont dû faire un poil marche arrière.